Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré avec Camille Coureur, designer industriel intégré chez Carrefour. Camille nous présente son parcours, puis la place du design aujourd'hui chez Carrefour, de la nouvelle stratégie mise en place avec les incroyables. Créer des innovations au service du plus grand nombre, des produits d'achat spontanés, complémentaires des courses alimentaires, et que Carrefour propose à un prix optimal, grâce à ce qu'ils appellent en interne le design to cost. Elle prend le temps de nous expliquer le déroulement d'un projet, son organisation, les collaborations avec les partenaires et fabricants. Elle nous partage sa passion et son implication pour son métier à travers la genèse des jeux géants en carton. Et pour finir, elle nous parle de la visibilité et la dynamique que cette nouvelle gamme a donnée à l'équipe. Nous vous laissons découvrir notre échange. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui de la visibilité en laissant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et pensez à vous abonner sur notre site acdi-asso.fr. Merci à vous. Bonjour Camille, merci beaucoup d'accepter de participer à notre podcast. Et donc, pour commencer notre podcast, peux-tu commencer par nous présenter ton parcours ?
Ça marche. Bah, déjà, merci Annabelle de me donner la parole aujourd'hui. Alors, concernant mon parcours, en fait, depuis toute petite, je suis hyper créative, hyper manuelle. J'ai toujours adoré dessiner. J'étais toujours avec mon bloc et mon carnet, mes crayons, et dans mon coin, on ne m'entendait pas. Et j'ai toujours été vachement intéressée par l'art en général. Du coup, j'ai voulu faire art appliqué, mais mes parents n'étaient pas trop pour, parce que dans ma famille, je n'ai pas trop de personnes qui sont sensibles à ça. Et j'ai persévéré et finalement, j'ai réussi à vendre le stage donc, que proposait à l'époque l'ISD Valenciennes. On pouvait faire 3 jours de stage avant le bac. Et puis, j'ai adoré. Je leur ai vendu ça un peu comme un truc industriel, ingénieur. Donc, ça les a rassurés. Et ils m'ont dit « Ok ». Donc, bah, voilà, j'étais lancée. Donc, j'ai intégré le cursus design produit à l'ISD. J'ai fait mes 5 ans là-bas. Ce que j'aimais beaucoup, c'était toucher à tout. Donc, pendant mes différents projets, je testais plein de domaines. Je n'étais pas vraiment focus sur un en particulier. Du coup, j'ai fait mes stages dans différents univers. J'ai fait un stage chez Adidas dans le sport et un stage chez Philips en médical. Donc, rien à voir, mais chaque stage était hyper intéressant. Et en fait, finalement, avec ces expériences, j'étais à chaque fois dans du design intégré. Mais je n'avais pas du tout testé le côté agence. Donc finalement, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis tournée vers une agence qui s'appelle XL Design. Donc c'est une agence basée à Paris qui est spécialisée en cosmétique et parfumerie. Donc nos clients, ils étaient plutôt dans le luxe, c'était des grandes marques de cosmétiques. On a pas mal travaillé aussi pour L'Oréal, Armani, etc. Et donc dans l'agence, les projets, c'était très focus sur le formel, l'esthétique. Les matériaux, l'attention du détail, ça m'a apporté beaucoup de rigueur dans mon travail. Mais j'avais un petit côté parfois où je pouvais être frustrée sur le fait de m'arrêter à l'esthétique du concept et puis de ensuite passer le projet. Parce que en fait, finalement, les marques, elles venaient avec un brief et on leur proposait des concepts, ils validaient et après, ils repartaient avec le produit qu'ils développaient en interne chez eux. Donc, petite frustration là-dessus. Et au bout d'un an et demi, j'ai été contactée par Philippe Vaé, qui est du coup en charge du design produit chez Carrefour. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter l'aventure. Du coup, j'y suis allée et ça fait maintenant 3 ans que je fais partie de l'équipe design produit chez Carrefour. En fait, je pense aussi que je suis arrivée au meilleur moment parce qu'en 2018, le design produit, il a été un peu restructuré. Donc, on a un peu changé la stratégie. Et il y a eu un gros tournant là-dessus pour créer la gamme des incroyables. Donc, l'idée avec les incroyables, c'était de trouver une nouvelle manière de mettre en avant la création de valeur du design dans l'entreprise. Et comment on pouvait faire ça? C'était en créant des innovations au service du plus grand nombre. Parce qu'avant, du coup, cette stratégie des incroyables, c'était dans un fonctionnement où les chefs de produits montraient leur gamme et mettaient en avant certains produits à redessiner. Il y avait quand même beaucoup de styles. Il n'y avait pas de gros travail de fond au niveau du design. Et donc, avec cette stratégie des incroyables, on a un peu recentré l'équipe autour de ça. Donc là, actuellement, on est 6 designers dans l'équipe design produit. On travaille un peu comme une petite agence, donc ça, c'est top. Je pense que ce n'est pas toujours le cas en design intégré. En fait, nous, on a la chance de vraiment toucher à tout. Et pour le coup, on ne répond pas à des demandes du marketing. On détecte nous-mêmes nos opportunités. Donc, je sais qu'il y a pas mal d'entreprises où le marketing vient avec des briefs et puis les équipes design va bien répondre. Nous, on fonctionne vraiment en électron libre. Donc, chaque année, on a à peu près deux grosses sessions créatives. On va détecter, je dirais, plus de 200 opportunités, un peu dans tous les domaines dans lesquels est Carrefour non alimentaire. Donc, ça peut être la maison, le jardin. Ensuite, une fois qu'on a cet énorme éventail d'idées, on va un peu procéder de manière entonnoir avec différents outils. Donc, nous, déjà, avec notre appréciation, on va déjà faire des présélections. Ensuite, on va passer par des études clients. Ces études clients, elles vont être hyper rapides, c'est-à-dire qu'on va soit faire des dessins, soit des 3D. En fait, on va essayer de visualiser, de représenter notre idée. Et là, par exemple, cette année, on a pas mal utilisé les nouveaux outils comme Midjourney, etc., pour avoir des visuels très rapidement. Et en fait, on va leur défiler ces images et ils vont juste nous dire oui, j'achète, non, j'achète pas. Parce que finalement, chez Carrefour, les gens, ils vont venir avec leur caddie pour faire leurs courses alimentaires. Ils viennent pas forcément pour le non alimentaire. Et nous, on se dit, derrière son caddie, on a une attention vraiment très faible. Et donc, c'est comment on va capter le regard des gens. Il faut que le produit, il soit compris directement en quelques secondes. Et donc, ces études, elles nous permettent de réduire cette sélection donc d'idées. Et ensuite, quand on se retrouve à peu près à, je dirais, une cinquantaine d'idées, on va là les présenter au chef de produit. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on les fait intervenir dans le processus de développement. Les chefs de produits vont nous dire si ça les intéresse, si on peut faire rentrer ça dans leur gamme. Et ils vont aussi nous donner une estimation de quantité ou de volume en fonction d'une ambition prix. Et si le produit plaît aux chefs de produits, là, on démarre vraiment le développement où on va intégrer une personne de la qualité et, si besoin, une personne du sourcing. Je le développerai peut-être un peu plus tard, mais au niveau du sourcing, il y a une première partie où nous, on va faire nos recherches de fabricants dans l'équipe design. Et si c'est compliqué, on va soit faire appel au sourcing Europe ou soit au sourcing Asie. Mais c'est vraiment notre force là en interne, c'est cette créativité. Et la créativité, elle arrive vraiment au niveau du choix des idées, quoi. Donc, on est assez libre. Je pense que ce n'est pas donné à tous les designers intégrés en entreprise. Donc, ça, c'est vraiment un point fort. On travaille sur plein de sujets très variés. Les designers ne sont pas dédiés à une typologie de produits. Ça va être un peu par affinité. Par exemple, personnellement, moi, j'avais quand même pas mal de connaissances en couture. J'en faisais pas mal pendant mon temps libre. Et c'est vrai que dans l'équipe, ce n'était pas trop développé. Donc, on a commencé à faire des produits plus textiles parce que je pouvais prototyper assez rapidement. Mais sinon, dans l'équipe, il y a des personnes qui ont des connaissances plus affûtées sur l'injection plastique ou sur l'emboutissage. Donc, parfois, les projets, ils se distribuent un peu de cette manière avec les connaissances techniques et les affinités. Mais en soi, on choisit un peu les projets sur lesquels on veut travailler. Et du coup, comme c'est choisi à la motivation, c'est vrai qu'on les développe jusqu'au bout. On n'en perd pas un en cours de route, quoi, je veux dire. Mais donc, voilà. Donc, notre force, c'est vraiment cette créativité et aussi, dès le début, la prise en compte du ce qu'on appelle, nous, là, en interne, le design to cost. Donc, ça va être vraiment, dès le départ, quand on va sélectionner l'idée avec le chef de produit, on va estimer une ambition, on va s'établir une ambition prix qui va nous guider pendant tout le développement du produit. Alors, parfois, on l'atteint, parfois, on ne l'atteint pas. Mais cette ambition, elle va nous permettre de déjà trouver des fabricants, voir si des partenariats peuvent être possibles avec cette idée de prix-là. Parfois, on nous dit non, mais là, vous rêvez, on n'arrivera jamais à faire ça à ce prix-là. Et puis, cette ambition prix, elle nous permet aussi de parfois trouver des moyens de production ou alors de faire évoluer les designs et de finalement partir plus loin de l'idée de départ. Donc, c'est hyper important et ça permet aussi de proposer aux clients des produits qu'on appelle des produits vrais. Donc, sur les incroyables, on essaye vraiment de réduire notre marge pour pouvoir, entre guillemets, la rattraper avec la quantité, parce qu'on veut vraiment démocratiser et proposer des innovations au plus grand nombre de personnes possible. Et donc,
quand on va faire notre recherche de fabricant, on va directement proposer cette ambition. Ça permet aussi de faire le tri. Il y a des fabricants qui vont être très moteurs et qui vont tout de suite vouloir créer un partenariat. Et puis d'autres qui vont être un peu plus sceptiques. Et donc là, on se dit que finalement, l'énergie, elle va pas être super dans le développement. Et donc, ça nous permet aussi de faire des sélections. Et à chaque fois, quand on commence à chercher nos fabricants, on essaye de relocaliser un peu les projets. Donc, on va d'abord chercher des fabricants en France. Ensuite, bah, si on n'y arrive pas, là, on va se rapprocher du sourcing Europe. Et puis, si en Europe, c'est toujours pas possible, on va se rapprocher du sourcing Asie pour trouver des fabricants, par exemple, en Chine. Mais dans notre démarche, on essaye de toujours commencer par la France et ensuite d'étendre. Et en fonction des process de fabrication et aussi des fabricants qu'on choisit, on travaille soit avec les bureaux d'études qui sont directement intégrés, ou parfois des fabricants n'en ont pas. Donc, soit on fait appel à des bureaux d'études externes, soit si on en trouve pas, on fait aussi appel à des spécialistes. On avait le cas là récemment, on a fait un projet textile. On a fait appel à Benjamin Métavant, qui travaillait avant chez Decathlon. Lui était spécialiste dans tout ce qui va être optimisation matière, donc il nous a aidé au niveau du patronage à placer la matière sur les laisses de tissu pour avoir le moins de pertes possible. Donc, en fait, ce qui est très intéressant en interne, là, c'est qu'on va travailler sur plein de typologies de produits, mais nous, on n'est pas du tout spécialiste dans ces différents types de process de fabrication, parce que quand on fait un jouet en carton, puis juste après un barbecue avec de l'emboutissage, bah, ce n'est pas du tout les mêmes outillages et les mêmes techniques. Donc, en se rapprochant comme ça de spécialistes, on arrive à être vraiment pertinent et puis à pouvoir atteindre ses ambitions. Et ce qui se passe aussi dans la plupart de nos projets, c'est que finalement, on a notre idée de base, mais on n'a pas forcément une forme prédéfinie. Et en fait, tout le design va venir évoluer en échangeant avec le fabricant. Et finalement, parfois, on va se dire, je vais vraiment caricaturer, et on va se dire, bon, bah, on aimerait bien faire cette boîte carrée. Et le fabricant va nous dire, bah oui, mais en emboutissage, pour arriver au carré, il va nous falloir 5 opérations, donc ça va coûter tant. Alors que si vous changez votre forme et que vous faites une boîte plutôt ronde, ovale, avec des courbes, on va pouvoir retirer 2 opérations d'emboutissage et puis vous allez pouvoir gagner en prix. Dans la gamme incroyable, tous nos projets comme ça sont vraiment créés en partenariat avec les fabricants. Et nous, on est vraiment le lien entre fabricants, la personne de la qualité et le chef de produit. Et on est là de la naissance de l'idée, vraiment à la mise en marché. Donc, on est là pendant tout le processus. Et donc, c'est hyper intéressant. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les jouets géants quand on a créé la saga et au début, les premiers jouets. En fait, l'idée des jouets géants, elle est venue quand on a fait cette session de créativité. On parlait de souvenirs d'enfance et on s'est rendu compte qu'on avait tous déjà plus jeunes joué avec des cartons. Et il y avait un côté hyper marrant de ces souvenirs qui étaient restés ancrés, alors que finalement, c'était avec des choses assez éphémères parce que la caisse en carton, on l'avait bien malmenée pendant des semaines. Donc, au bout d'un moment, les parents avaient fini par la jeter. Mais il y avait un côté hyper surprenant de se dire qu'on avait tous un souvenir avec une boîte en carton à raconter. Et contrairement à d'autres projets où parfois on est plutôt guidé par les enjeux de l'entreprise, là, ce n'est pas du tout venu du « Ah, il y a beaucoup de plastique dans les rayons jouets, il faut qu'on diminue ça ». C'est vraiment venu d'un souvenir qu'on avait tous en commun. Et on s'est dit « mais ça serait génial de faire une cabane énorme ». Et puis Philippe nous avait raconté une anecdote, par exemple, où ses parents avaient acheté un énorme congélateur et lui avaient gardé la boîte. Et il avait fait finalement un vaisseau spatial ou je ne sais plus quoi avec sa boîte. Et pendant des semaines, il était dans son carton et il ne bougeait pas. Et puis finalement, à la fin, ses parents l'avaient mis au rebut ou je ne sais plus. Mais en tout cas, il gardait un super souvenir de ça. Donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui existe actuellement dans les jouets en carton? Il existait déjà des cabanes, mais c'était franchement, c'était assez cher. On était tombé sur des jouets à genre 150 euros et on disait c'est quand même incroyable de mettre ce prix-là alors que finalement, le jouet ne va pas rester très longtemps à la maison. Donc finalement, l'utilisation du carton, ça prenait tout son sens et on s'est dit comment on va rendre ça accessible. Donc on a un peu posé les différents points sur ce projet et on s'est dit bon, il y a quand même un côté éphémère, on va finir par jeter le jouet, donc c'est pas très écolo. Maintenant, on est plus dans une optique de durabilité, mais là, nous, on est vraiment parti sur le côté éphémère des désirs des enfants, et il y a plein de parents qui achètent des montagnes de jouets, et finalement, on l'a tous vécu, mais les enfants, ils y jouent 2 jours, et après, c'est dans un coin de la chambre, et on y touche plus. Donc là, on s'est dit, bon, on assume ce côté éphémère, on part sur le carton, comment on peut réduire notre impact? Et là, l'idée, c'était de se dire, bon, premier point, on va essayer de relocaliser. Donc, on a cherché différents fabricants français. On s'est aussi dit, bon, le carton, finalement, c'est quoi? Bon, bah, c'est 2 feuilles de papier avec de la cannelure au milieu, donc c'est que de l'air. Donc, on s'est aussi dit, si on fait venir de l'air de Chine, ça va faire un peu cher l'air, et puis c'est pas très bon pour la planète. Donc, on s'est dit, là, il faut tout donner, il faut trouver des fabricants français. On en avait trouvé plusieurs, et puis finalement, on a sélectionné DS Smith, donc, qui a été notre partenaire sur ce projet. Et ce qui était bien avec le carton, c'est qu'en fait, c'est une matière qui nécessite pas beaucoup d'investissement et pas beaucoup d'outillage, contrairement à du plastique où on va devoir payer des moules, où on va devoir faire beaucoup plus d'investissement. Là, c'était assez simple, il n'y avait pas beaucoup de risques. Et donc, pour emmener les équipes avec nous en interne, c'était beaucoup plus simple. Donc, il y a eu vraiment un fort élan d'énergie sur ce projet. Et donc, ça représentait bien aussi ce qu'on essayait de faire en interne, parce que finalement, nous, nos objectifs au niveau de l'innovation, ça va être surtout créer des faire venir. Enfin, c'est comment on va générer de la préférence client en magasin, comment on va, en proposant des produits qui sont très accessibles niveau prix, mais pas que. En fait, on essaye de se dire comment on peut créer un effet un peu waouh quand on vient en magasin. Donc, ce projet, ça a été une bonne vitrine finalement. En plus, c'était très agréable de travailler avec ce fabricant parce qu'ils étaient vachement force de proposition. Ils nous ont beaucoup aidés sur comment on va assembler, jouer, comment on va le maintenir en place au niveau des languettes, etc. Et c'était super de pouvoir... on avait des échanges réguliers là-dessus. Et puis, ce qui était aussi très positif, c'était de voir la fierté des salariés de l'entreprise DS Smith d'avoir travaillé sur ce projet. Parce qu'habituellement, il était plutôt spécialisé dans l'emballage, donc c'était des boîtes carton assez classiques. Et en fait, là, ils pouvaient même eux dire à leur famille, vous voyez, finalement, regardez ce que je fais, ça c'est mon travail, j'ai fait ça. Et donc, le fait de rendre fiers aussi d'autres salariés hors Carrefour, mais qui se sentent vraiment concernés par le sujet, c'était vraiment valorisant. Du coup, voilà, c'était vraiment un projet top. En plus, ça nous a permis aussi d'être avec le recul, de se dire comment on peut être plus engagé comme ça sur tous nos projets. Comment on peut vraiment mettre ça en avant au niveau du design chez Carrefour. Comment on peut reproduire l'histoire. Voilà, et être aussi plus durable. Parce que finalement, ce projet nous a amené énormément de visibilité dans l'entreprise. On a décroché un plan COM 360, on appelle ça. En fait, qui nous a permis d'être en catalogue, qui nous a permis d'être affichés sur les panneaux d'affichage dans les villes. On a eu des grandes affiches sur les parkings des hypermarchés et on a eu le Graal suprême, une pub télé. Normalement, les pubs, elles sont un peu réservées à l'alimentaire. On ne met pas tout le temps le non alimentaire en avant. Et là, du coup, on a eu une autre pub pour nos jouets géants. Et en plus, on a mis en avant les designers dans la pub. Donc, collègues Ludo et moi-même qui avions bossé sur le projet. Et ça, je pense que ça n'arrive pas beaucoup dans une vie de designer. Et on ne le voit pas forcément dans d'autres entreprises non plus. Donc ça, c'était quand même un coup de visibilité énorme. Et puis, j'ai aussi une petite anecdote. Alors ça, c'était marrant. J'étais partie faire mes courses. J'étais en voiture et j'étais au feu rouge. À un moment, je tourne la tête. Et donc, dans la maison qui était collée au feu rouge, j'avais une vue sur le salon. Et j'ai vu le toit de la maison en carton. Et je me suis dit, finesse de ça, c'est quand même la concrétisation de pas mal de choses, de se dire qu'en tant que designer, on voit ses produits chez les gens. Donc, il y avait un côté un peu... j'ai atteint mon rêve, mais ouais, j'ai eu la petite larme à l'œil. Donc, voilà. Mais vraiment, ce projet, il a été tremplin sur plein de choses en interne. Après, ce qui est différent avec les autres projets, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il n'y avait pas d'investissement. personne devait vraiment prendre de risques, à part sur les quantités, mais en fait, c'était un projet qui roulait tout seul. Et donc, là, le réitérer sur d'autres produits, ce n'est pas forcément évident, mais en tout cas, ça a donné, c'était une introduction et ça nous donne un élan positif pour la suite. Et puis, ça nous donne aussi envie de faire d'autres projets qui sont mis en avant dans des pubs et d'autres projets engagés. Et là, il y a des nouveaux produits qui vont sortir, notamment là, dans 2 semaines, des boîtes de conservation en inox à un prix imbattable. Et pareil, là, ça sera fait en France. On en a 2 autres derrière qui vont sortir, qui seront faits en France. Donc, on est aussi assez fiers de pouvoir contribuer à la relocalisation. Et c'est aussi le fait d'être chez Carrefour qui permet ça, parce qu'on a une force aussi au niveau des volumes qui nous permet aussi d'atteindre ce genre d'objectif. Et donc ça, c'était vraiment un gros point du projet. Et notamment, si je reviens sur les boîtes, là, on avait fait appel à un fabricant qui, à la base, était spécialisé dans l'équipement automobile, donc pas du tout dans l'alimentaire. Et ils ont fait des énormes investissements pour produire cette boîte. Ils ont étendu leur usine pour agrémenter toute une chaîne spécialement dédiée aux produits Carrefour. Et donc, voilà, ça permet aussi de se dire que grâce à nos idées, juste nous, à 6 designers, on arrive à contribuer à l'industrialisation française. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais ce projet était vraiment top. J'aimerais bien pouvoir en faire plein d'autres comme ça ici. Mais voilà.
Eh bien, écoute, Camille, merci beaucoup pour cette explication de à la fois la place du design chez Carrefour, comment tu es arrivée là, comment vous vous organisez, avec qui vous travaillez et surtout la naissance de ces nouveaux produits que vous avez appelés les incroyables dans vos gammes.
De rien, Annabelle, j'étais contente de pouvoir partager ça avec toi et puis avec tous les auditeurs.